Chez Éducalois, on sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre. Les nuances sont nombreuses selon la situation. Bref, ça dépend. Par exemple, lorsque François est revenu de vacances, quelques surprises l'attendaient à la maison. Il en parle à son amie Sylviane, notaire et vulgarisatrice juridique.
Non, je te jure, sérieux, je te recommande fortement, Sylviane, cet hôtel-là. Ah, ça a fait du bien à notre couple, en tout cas. Beau petit voyage en amoureux, tu sais. Hey, on est-tu bien pareil, hein?
Ah oh, ouais, c'est magique.
Ah oui, puis on a tout arrangé pour que ça marche, là. Flavie, notre fille de 17 ans, elle est allée chez son chum. Puis Jacob, notre fils de 4 ans, il s'est fait garder par ma sœur Francine. Mais Francine n'avait pas l'air très contente, finalement, du cadeau qu'on lui a ramené pour la remercier. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il aurait fallu que je la paye au moins au salaire minimum?
Ben non, le salaire minimum, il s'applique pas dans cette situation-là. La loi sur les normes du travail, elle impose un salaire minimum, mais il y a certaines personnes qui sont exclues de cette loi-là, comme les membres de la famille ou le petit voisin, la petite voisine qui vient garder tes enfants. Ce qu'il faut se rappeler pour savoir si le gardien ou la gardienne est exclu de la loi sur les normes du travail, il faut cumuler 4 éléments. 1, la personne doit venir garder chez toi. 2, ça doit être sa seule responsabilité. 3, il doit pas y avoir de notion de profit. Et 4, la garde doit être ponctuelle. Mais si c'est pas juste ponctuel, le gardiennage peut être dans un service rendu par un membre de la famille, comme ta sœur, ta mère, ton père, ou que ce soit dans une relation d'entraide communautaire.
Attends, qu'est-ce que t'entends par entraide communautaire?
Ben, par exemple, les organismes qui offrent des services de répit aux familles ou aux proches aidants. Parce que, en fait, c'est les mêmes principes qui s'appliquent qu'on parle de faire garder ses enfants ou n'importe quelle autre personne dont on s'occupe.
Ah ouais.
Comme une personne malade, qu'on pense que c'est mieux pour elle qu'elle reste pas toute seule. Ou même juste ton père ou ta mère qui vieillissent puis qui ont parfois besoin d'un peu de soutien.
Ah, bon à savoir. En tout cas, ça me rassure. Surtout que ça s'est vraiment bien passé, là. Ah, comme sur des roulettes. Bon, comme sur des roulettes. C'est qu'à un moment donné, mon gars, il jouait dans la rue avec son ballon, puis il a brisé la vitre de la voiture d'un voisin. Dans un cas comme ça, qui est responsable?
Ben, juste avec ta version des faits, c'est impossible de savoir qu'est-ce qu'un juge déciderait. Mais ce que je peux te dire, c'est que le principe général, c'est si c'est ton enfant, c'est aussi ta responsabilité.
Ouais.
Ça va dépendre d'autres facteurs aussi, comme l'âge de l'enfant et sa compréhension par rapport au geste qu'il a posé.
Ah, il a trouvé ça dur.
Mais dans ta situation, la responsabilité pourrait revenir à 3 personnes. D'abord, toi, comme parent, parce que ça entre dans ton devoir de bonne éducation. Ensuite, ton enfant, s'il avait conscience de l'impact de ses gestes. Mais ça, c'est habituellement autour de l'âge de raison, donc vers 7 ans, mais c'est toujours du cas par cas. Et finalement, ta sœur Francine, comme gardienne, parce qu'elle avait un devoir de surveillance que tu lui as comme transféré pour la période où elle a gardé ton enfant.
Mm-hmm.
Et là, si en tant que parent, tu veux te dégager de cette responsabilité-là, ça va être à toi de démontrer au juge que tu n'as commis aucune faute dans la garde, la surveillance et l'éducation de ton enfant.
Et comment ça joue au tribunal, cette responsabilité-là?
Ah, pour ça, le juge, il va se poser certaines questions. Comme, c'est quoi les principes et les valeurs que tu as inculquées à ton enfant? C'est quoi les choses qui sont tolérées ou interdites dans ta famille? Ou c'est quoi les règles de sécurité que tu imposes à ton enfant quand il fait certaines activités ou jeux dangereux? Mais là, je vais même aller plus loin que ça. La responsabilité que tu as envers ton enfant, elle s'arrête pas quand ton enfant met le pied en dehors de chez vous. Tu continues d'être responsable des actes de ton enfant, même s'il n'habite plus chez vous, comme s'il va étudier à l'étranger, par exemple.
Ben voyons donc.
Même affaire si t'es séparé de l'autre parent. Tu restes aussi responsable quand ton enfant est chez l'autre parent, même si toi, t'es pas là. Ah, mais François, as-tu avisé ton assureur?
Non.
Parce que dans l'assurance habitation, il y a un volet responsabilité civile qui pourrait venir couvrir ce que ton gars a fait. Mais ton assureur, il pourrait refuser de te couvrir s'il trouve que tu ne l'as pas avisé assez rapidement.
Ouf, OK. En tout cas, c'est pas cette année que le voisin va me faire un cadeau de Noël.
Là, François, ma vitre de char, c'est un char neuf. J'aurais pas le choix de t'amener en cours.
Oui, madame. Le voisin a dit qu'il allait me poursuivre. Comment je fais pour savoir si c'est pas des paroles en l'air?
Ouais, mais là, t'as comme pas trop le choix d'attendre. Mais si ton voisin veut vraiment te poursuivre, tu vas le savoir. Parce que la prochaine étape, c'est de t'envoyer une mise en demeure. Une mise en demeure, c'est le dernier avertissement avant la poursuite judiciaire. C'est une façon de te dire, là, c'est la dernière fois que je te le demande, puis si tu me paies pas tel montant, ou si tu fais pas telle ou telle chose, ben je vais t'amener en cour.
C'est stressant.
C'est sûr que si tu reçois une mise en demeure, il faut que tu apprennes au sérieux. Mais faut pas que tu oublies non plus que ce que l'autre va te demander, faut que ce soit justifié et raisonnable. Par exemple, ton voisin, il pourrait pas te demander 800 $ pour la réparation d'une fenêtre qui en a coûté 150.
OK, mais là, Sylviane, si je reçois une mise en demeure, qu'est-ce que je peux faire?
Dans ce cas-là, tu as trois options. Soit tu acceptes la demande, donc de lui payer la somme demandée, par exemple. Soit tu fais rien, puis t'attends de voir si ton voisin va passer à la prochaine étape. Et ça aussi, tu vas le savoir, parce que s'il va plus loin, tu vas recevoir d'autres papiers officiels qui vont t'expliquer que, finalement, oui, il t'amène en cour. Ou soit t'essaies de discuter avec lui. Tu pourrais, par exemple, lui proposer d'aller en négociation ou en médiation.
Négocier, à vue de nez, ça n'a pas l'air de trop y tenter. Fait que c'est quoi ça, la médiation? C'est pas juste pour les couples qui se séparent?
Ben en fait, non. C'est vrai qu'on entend plus souvent parler de la médiation familiale quand un couple se sépare, mais il existe aussi ce qu'on appelle la médiation citoyenne pour d'autres types de conflits. La médiation, en gros, c'est une autre option que d'aller devant le tribunal, même que parfois, ça peut être gratuit. Donc, c'est vraiment intéressant de s'informer sur cette option-là. De passer par la médiation, ça donne un plus grand sentiment de justice, parce que le médiateur, c'est pas lui qui va trancher comme un juge. C'est vraiment les personnes qui sont en médiation qui choisissent le dénouement de leur histoire. Puis, dans ton cas, il serait pas trop tard, là. Tu peux proposer la médiation même après avoir reçu une mise en demeure.
Ben ça ouvre pas mal d'options. Ben, je serais prêt au cas où que ça arrive. Hey, merci, Sylviane.
Ça fait plaisir.
Notre quotidien, comme celui de François, est rempli de questions juridiques. Vous vous questionnez sur la loi? Éducalois a des réponses pour vous. www.educalois.qc.ca Éducalois. Savoir, c'est pouvoir.